Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, la fois dernière, je vous ai parlé du corps, après avoir parlé du sens cosmique, afin de montrer combien l'incarnation est transcendante, combien la transcendance est incarnée. Extraordinaire message, extraordinaire parole, extraordinaire connaissance, extraordinaire lumière qui nous vient de l'Évangile, où nous voyons qu'à travers ce qu'on appelle l'incarnation, nous vivons la réconciliation du visible et de l'invisible et du ciel et de la terre. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'énergie. Pourquoi parler de l'énergie ? Pour parler de ce qui permet d'aller au-delà des oppositions dans lesquelles nous sommes, à savoir l'opposition du matériel et du spirituel, de l'humain et du divin, du visible et de l'invisible. Quand on est vivant, qu'est-ce qui se passe ? On est là et en même temps on est au-delà. Dans la mesure où la vie étant en mouvement, la vie existe de ne pas exister d'une manière figée. Et donc, elle existe d'être et de ne pas être à la fois. La vie réconcilie le ciel et la terre. À l'intérieur de la vie, il y a ce qui fait vivre la vie. C'est la vie de la vie, le vivant à l'intérieur du vivant. C'est ce qu'on peut appeler l'énergie, qui est le pouvoir agissant, à la fois céleste, matériel et personnel. Quand on parle énergie, nous avons la sensation d'avoir affaire à une force. Il faut aller au-delà. L'énergie ne signifie pas la force. Mais l'énergie signifie l'être qui agit. L'être N, que l'on trouve dans énergie. Ergie, ergon, ergos, l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? L'énergie, c'est la puissance de l'être céleste qui agit. Et qui œuvre à l'intérieur de nous pour faire de nous des êtres réels, des êtres personnels et des êtres transcendants. L'énergie, on la trouve à l'intérieur de la nature, dans tous les éléments de la nature, et nous le sentons très bien lorsque nous allons nous ressourcer à la montagne, à la mer ou sous le soleil. Nous vivons à notre manière ce que vivaient les Grecs dans la religion dite païenne de la mythologie, qui voyait du divin présent partout. En fait, les anciens avaient le sens des fréquences énergétiques qu'il peut y avoir à tous les niveaux de la nature et dont les hommes peuvent se nourrir lorsqu'ils rentrent en communion avec la nature, ce que nous vivons et que nous trouvons extrêmement ressourçant. L'énergie, c'est aussi l'énergie humaine pour pouvoir découvrir dans la culture la pluralité des mondes que la culture est capable de faire apparaître. Balzac a merveilleusement décrit tous les mondes qui peuvent exister dans la société et qui chacun ont une lumière et une énergie propre à partir de l'action qui est la leur. Victor Hugo a admirablement décrit les travailleurs de la mer en montrant l'énergie extraordinaire qu'il peut y avoir dans ces êtres courageux qui font face aux éléments et qui quelque part récapitulent l'histoire du monde à travers la vie qui est la leur. D'où la deuxième énergie, l'énergie humaine. Avec cette caractéristique, c'est que l'énergie appelle l'énergie. L'énergie de la nature autour de nous éveille, stimule l'énergie qui se trouve en nous. L'énergie des hommes, l'énergie de la culture, l'énergie de l'histoire autour de nous éveille l'énergie qui se trouve en nous. Mais il y a plus encore, il y a l'énergie divine. Je sais qu'un certain nombre de théologiens chrétiens ont une prévention à l'égard de l'énergie parce qu'ils pensent qu'on pourrait réduire Dieu à une énergie, c'est-à-dire à une force matérielle. Ce n'est pas du tout ça que veut dire l'énergie. Et je crois qu'il convient de rétablir ici le sens de celle-ci. L'énergie est à la base de la théologie de Saint Grégoire Palamas. Au XIVe siècle, il y a une polémique qui oppose Saint Grégoire Palamas, qui vit au Mont Athos et qui pratique l'hésychia, c'est-à-dire la découverte de la paix intérieure à travers la prière. Une polémique oppose donc Saint Grégoire Palamas, qui pratique l'hésychia, la prière, la paix intérieure, et un moine calabrais du nom de Barlaam. Et on voit ici s'opposer deux visions de l'homme et de l'humanisme. Barlaam a été choqué par qu'il a vu dans des pratiques monastiques, qu'il pensait que c'était des pratiques nombrilistes. Et donc Barlaam a du recul à l'égard de l'hésychia et de la pratique intense de la prière que l'on trouve chez les moines. Et pour ça, il substitue à un humanisme divin, un humanisme humain. Appuyé sur deux choses, premièrement le sens de l'inconnaissable de Dieu, et deuxièmement le sens de la réalité pratique, concrète. En fait, Barlaam essaye de réconcilier ici la théologie de Denis l'Areopagite, théonologie de l'inconnaissable, et celle de l'empirisme thomiste, ce qui l'amène à avoir une vision agnostique et réaliste. C'est la vision de l'honnête homme qui pense qu'on vit la vie divine dans la mesure où on est humble devant le mystère de Dieu, et puis on est plein de bon sens dans la vie pratique. Attention, dit Saint Grégoire Palamas, on peut devenir athée avec cette vision des choses qui ne voit pas la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et l'homme et la vie humaine. Et avoir la foi, c'est pas simplement penser que Dieu existe et que Dieu est inconnaissable, mais c'est vivre l'expérience de Dieu. Et c'est ce que Saint Grégoire Palamas exprime quand il dit que Dieu, certes, est inconnaissable, mais attention, il est agissant et on peut faire l'expérience de Dieu en soi sans pour autant réduire Dieu à une idée, à un concept humain. C'est ce que fait l'expérience de l'hésychia. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'hésychia ? C'est l'expérience de la vie qui est devenue totalement harmonieuse parce qu'elle vit continuellement l'unité avec Dieu à travers la prière dont Simone Veil disait avec justesse qu'elle est attention absolue. Là, nous pouvons faire l'expérience du Dieu agissant. Il est important d'apercevoir que le Dieu agissant va totalement avec le Dieu inconnaissable. Pourquoi ? Parce que Dieu ne cesse d'agir, ne cesse de créer, ne cesse de tout recréer, et ce qui fait que, tout en étant inconnaissable parce qu'il se recrée tout le temps, il est en même temps connaissable parce qu'il est agissant. Il est agissant au niveau de l'incréé et il est agissant à l'intérieur du créé. Et donc, on peut ici éviter de tomber dans un réalisme agnostique et montrer qu'un autre humanisme est possible, c'est l'humanisme des hésychastes, l'humanisme mystique de la prière qui est donné par la pratique des moines, qui n'est nullement nombriliste, mais au contraire extrêmement rassembleuse, extrêmement unifiante. Autrement dit, dans notre monde qui s'interroge sur le fait de savoir ce qu'est l'homme, on peut dire qu'il y a trois humanismes possibles. L'humanisme de ce qui lutte contre la brutalité et la barbarie dans ce monde. L'humanisme qui consiste à rentrer dans la personne humaine et faire l'expérience du moi, de l'originalité du moi. Et puis un humanisme mystique qui peut faire vivre les énergies divines, c'est-à-dire le pouvoir agissant de l'homme à l'intérieur de lui-même. Qui sait jusqu'où peut mener l'énergie divine et céleste que l'on sent vivre en soi. Du monastère de Stavropoléos, monastère tout à fait extraordinaire situé dans le centre de Bucarest en Roumanie. Chers amis, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir le père Givko qui s'est présenté, qui nous a raconté sa conversion à l'église orthodoxe et puis sa venue à Paris. Cher père, à l'Institut Saint-Serge, vous enseignez deux cours, un cours de droit canon et un cours sur l'histoire des églises locales. Ce serait bien que vous nous rappeliez ce qu'est le droit canon et ce que sont les églises locales et la spécificité de leur histoire.
Effectivement, en fait, le cours de droit canon intitulé « Chez nous à Saint-Serge », la tradition canonique. Et ce cours, enfin, je le partage avec le métropolite Grigorios Papathomas. Et moi, je fais la partie introduction à la tradition de droit canon. Et voilà, pour expliquer qu'est-ce que c'est notre cours, comment nous voyons la tradition canonique. Parfois, quand les gens entendent que je donne des cours de droit canon, ils me posent des questions. Ben, pourquoi il a le droit alors que Dieu a amour ? Si Dieu a amour, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de punition. Mais lorsqu'on connaît cette tradition, et lorsqu'on étudie l'histoire, parce qu'en fait, pour être un chrétien, il faut bien connaître l'histoire, hein. Quelqu'un dit que le métier de chrétien, c'est d'être historien. Et quand on étudie cette tradition, cet héritage, et quand on se pose les questions, pourquoi, à quoi sert tous ces canons, règles, il faut comprendre à quel moment et pourquoi ces règles ont été éditées, édictées, données. En fait, si on voit que l'Église est une communion d'hommes et de femmes qui partagent la même foi, la même espérance, un Christ qui est le Fils de Dieu, véritable Dieu, véritable homme, et par foi, nous rentrons dans cette communion qui est son corps, et son corps c'est l'Église, l'Église c'est la communion, on peut comprendre que de même qu'on rentre dans l'Église en confessant la vraie foi, parce que vous savez bêtement, vous avez déjà vu lorsqu'on baptise quelqu'un, au moment, donc avant d'être baptisé, n'est-ce pas, plongé dans l'eau baptismale, il est appelé de réciter les credos, confesser la foi. Mais avant de réciter le credo, il est aussi invité à renoncer au Satan et toutes ses œuvres. Donc pour devenir membre de cette église, communion, communauté, église, il faut avoir la bonne foi, orthodoxie, et les bonnes œuvres, orthopraxie. Mais on sait que tant qu'on n'est pas sauvé, on peut toujours commencer à confesser une mauvaise foi, cacodoxie, et faire des mauvais actes, cacopraxie. Donc, on peut sortir de la communion, on peut sortir de l'Église. Et justement, l'Église s'est réunie chaque fois, à un certain moment de l'histoire, pour dire, voilà, quelqu'un confesse la mauvaise foi. Ainsi, confessant, il sort de l'Église, et tous ceux qui le suivent ne sont pas de l'Église. Ou bien, quelqu'un a tuer quelqu'un. Par cet acte, il est sorti de l'Église. Et les canons disent, celui qui a donc assassiné quelqu'un, il est sorti de l'Église, mais en même temps, les canons disent, pour revenir à l'Église, il faut une période de repentance. Par exemple, 20 ans, il peut venir devant l'entrée de l'Église. Ensuite, il peut, pendant 5 ans, rentrer dans la narthex et écouter, rester jusqu'à la lecture de l'Évangile, et au bout d'un certain temps, peut rester jusqu'à la communion, mais sans avoir le droit de communier, et à la fin, il peut, par la communion, redevenir membre de l'Église. Donc les canons, c'est les voies comment on redevient l'Église. De même que les décrets, hein, les décrets, donc c'est les décrets des conseils œcuméniques, qui disent que Arius est un hérétique, ou Nestor c'est un hérétique, c'est justement un rappel quelle est la vraie foi. Parce que sans la vraie foi, et sans les bonnes œuvres, on n'est pas dans l'Église. Donc les canons, c'est là pour l'Église. Alors, et donc c'est une sorte de thérapie aussi, la façon comment revenir à l'Église. Ce n'est pas des lois.
L'image qu'on a de l'extérieur des canons, c'est que c'est uniquement des règles. Et ce que vous nous montrez, c'est plus que des règles, c'est une expérience.
Ben, hein. Exactement.
C'est l'expérience d'être dans l'Église, l'expérience de rompre avec l'Église et l'expérience de retourner dans
exactement
l'Église. Et les canons permettent d'encadrer cette c'est expérience.
C'est donc les canons, c'est la voie de reconstituer l'Église. C'est une thérapie aussi. Quelqu'un qui est sorti, il est blessé oui, mortellement, oui, oui, pour qu'il soit à nouveau sauvé donc, par la communion au Saint-Corps et au Saint-Sang de notre Sauveur. Il doit donc passer une période d'épitimie qu'on appelle d'épreuve pour justement à nouveau donc devenir membre de l'Église.
Et donc on parle toujours de la grande sagesse des canons. Hein. Il y a une grande sagesse des canons hein, qui permettent au fond la guérison de l'âme et le salut, hein, permettent de réintégrer le corps du Christ et donc
exactement. Hein. Mais il faut savoir lire aussi les canons, parce que les canons, certains oui canons ont été donnés dans un contexte historique propre.
Par exemple,
il y a un canon qui dit que celui un chrétien qui se fait donc soigner par un médecin juif, il est exclu de l'Église.
Ah bon?
Oui, mais quand on lit ça, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'Église antisémite. Mais non, parce qu'à l'époque, malheureusement, à l'époque, la médecine était parfois donc mélangée de formules magiques, et parfois un médecin juif aussi mettait des formules où on conjurait donc blasphémer contre le Christ.
Ah d'accord.
Voilà, c'était pour cette raison-là.
D'accord. Donc c'était tellement.
Non, juifs. C'est pas du tout parce derrière, que parce que par précaution. Voilà, par précaution parce qu'à l'époque la médecine c'était pas comme aujourd'hui une science exacte, mais il y avait parfois des formules, des guérisons, on faisait liser amulettes, etc. Qui n'étaient pas compatibles.
Il fallait oublier le terme juif et plutôt remplacer par.
Exactement, mais bon. Donc, voilà, tout à fait. Mais justement, c'est la même chose pour le sorcellerie blasphème. Hein.
Oui.
Donc il faut savoir situer. À cause de ça, il faut lire attentivement.
Il y a beaucoup de canons comme ça.
Il y a beaucoup, oui, plus que 500 canons. Mais je vous, vous savez, ce que je conseille à mes étudiants, d'avoir lu une fois de l'année le grand recueil. On n'avait pas un droit canon au codex comme dans l'Église catholique, parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être on peut pas tout codifier. Oui, tout recueil, vous voyez. Mm-hmm. Il y a un recueil qui est la base, ce qu'on appelle Nomen Canon de Photius. Mm-hmm. Donc c'est un patriarche de 9e siècle qui a composé différents canons de pères de l'Église, les canons des conciles provinciaux, conciles œcuméniques, ainsi de suite, les opinions de certains pères. Donc, grâce au métropolite Grigorios Papathomas, il y a une traduction, donc une édition bilingue, grec ancien, et aussi traduction française, donc de tous ces canons, conciles provinciaux, œcuméniques et pères de l'Église. On peut le lire, il faut le lire. Parce que si on ne lit pas, on aura beaucoup de préjugés. Donc, que le droit canon, c'est quelque chose qui punit, qui interdit. Non, le droit canon nous dit comment guérir, comment devenir à nouveau, pleinement, donc, et profondément, membre du corps de Christ.
Donc, c'est une médecine, mais une médecine par les règles, par au beau sens du terme.
Les voies, comment
il faut, on pourrait dire, une sorte de mariage heureux entre le droit au sens noble et puis la médecine,
le canon,
et puis le ciel.
Exact, le canon constate, comme un médecin, le diagnostic, il est sorti parce qu'il a fait ça et ça, mais pour guérir, pour revenir, il faut faire ça, c'est aussi simple que ça, il faut le savoir. Mm-hmm. Donc voilà.
Donc, c'est... Très bien. Donc vous nous réconciliez avec le droit canon et tout d'un coup l'aspect rébarbatif, rigoriste, finalement fait beaucoup moins peur parce que vous nous avez révélé les voies thérapeutiques et je crois aussi la grande sagesse de l'Église où tout est toujours fait pour le salut des hommes et la guérison, comme on dit, de leur âme et de leur corps. Voilà. Mais écoutez, cher père, un grand merci de nous avoir éclairé sur ce point.
Merci Bertrand.
Et pour terminer, à nouveau, les voix célestes des moniales du monastère de Stavropoléos, monastère étonnant, admirable, magnifique, situé dans le centre de Bucarest, en Roumanie.
traversé mon enfance en fermant les yeux, éviter le silence, le regard de ma mère, les jours pluvieux jusqu'à la paix, la dernière larme, quitter la colère et rendre à mon père les armes. Je suis de toi, je te porte en moi, bien qu'imparfait, c'est toi qui m'as fait et je te le dois. Je suis de toi, je ne t'en veux pas. J'ai fait de ce chagrin ma voix. Accrocher mes rêves au cerf-volant, planter mes pieds dans la mer, implorant que se lève le vent, défier les souvenirs, trouver le courage de pardonner.
Maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.